Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Médien. 11h30, 12h, nouvelle piste.
Le Maroc s'est imposé ces dernières années comme un acteur logistique et maritime majeur entre l'Europe, l'Afrique et le reste du monde. Ports, connectivité, infrastructures, ambitions industrielles, le maritime est devenu un véritable levier de compétitivité. Mais pendant que les infrastructures avancent, une autre question se pose. Est-ce que les compétences suivent au même rythme? Car le secteur maritime entre lui aussi dans une nouvelle ère. Nouveaux carburants, digitalisation, réalité virtuelle, nouvelles normes de sécurité et nouvelles façons d'opérer les navires. Alors si le Maroc veut consolider sa place dans cette nouvelle économie maritime, dispose-t-il déjà des femmes et des hommes capables de maîtriser les technologies de demain?
Nouvelle piste, Yasmine Karouani.
Aujourd'hui avec Jihad Bied, Global Head of Ocean Freight chez Martico Group, on pose une question simple. Peut-on réussir une ambition maritime sans réussir d'abord la transformation des compétences? Jihad Bied, merci infiniment d'être là.
Avec plaisir Yasmine, merci de votre invitation.
Alors justement, le maritime est-il en train de changer de nature? Avant de parler de compétences, j'aimerais qu'on comprenne ce qui est réellement en train de changer, si vous le permettez Jihad Bied. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore exercer les métiers du maritime comme il y a 10 ou 15 ans ou même 5 ans?
Bien sûr, merci pour votre question qui touche effectivement un sujet d'intellectualité au niveau de l'industrie. Bon, il y a déjà deux lectures à faire. Il y a une lecture globale et après une lecture, on peut dire, nationale qui est liée au contexte marocain. Pour la partie globale, je confirme l'hypothèse en disant que l'industrie est en train de changer parce qu'il fait face actuellement à plusieurs chocs. Donc, je peux déjà citer le choc digital. Toute l'industrie se dirige actuellement vers la réalité virtuelle comme moyen technologique pour révolutionner la formation. Il y a la blockchain, il y a l'IA. Et bien sûr, il y a un autre choc qui est le choc réglementaire, parce que l'industrie est en train de se transformer d'une approche passive où faire du bien est apprécié sur plusieurs volets, et je peux donner des exemples ultérieurement, à une approche qui est proactive, réglementaire, obligatoire.
Donc, ça veut dire quoi cette nuance, justement? Parce que dans Nouvelle Piste, en fait, on parle aux professionnels, mais on parle aussi au grand public. Donc pour ceux qui ne sont pas du domaine du maritime, est-ce que vous pouvez être un peu plus, on va dire, plus concret pour nous?
Bien sûr. Alors, je peux citer l'exemple de ce qu'on appelle dans le maritime le anti-fouling, qui est le procédé du nettoyage des coques des navires afin de prévenir les organismes marins de s'installer, comme les algues. Et ceci, par exemple, finit par impacter l'efficacité énergétique d'un navire pendant son navigation. Par exemple, pour ce volet-là, à valeur d'aujourd'hui, ça consiste d'une initiative à l'échelle des nations. Par exemple, il n'y a que la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis qui ont formulé une réglementation qui organise l'opération du nettoyage de ces organismes, par exemple. Alors qu'actuellement, l'Organisation maritime internationale, à peine il est en train de réaliser un draft, c'est dans un stade avancé, qui va sortir et qui va devenir obligatoire durant les prochaines années. Donc, ceci, c'est un exemple clair qui montre que l'industrie maritime est en train de se transformer d'une approche, comme j'ai dit, passive, où faire du bien, c'est aligné avec des agendas nationaux. Mais maintenant, on est en train de basculer vers une réglementation qui va être obligatoire pour le globe.
D'accord. Donc, justement, pour mettre ça dans le contexte de nouvelles pistes, en quoi les hommes et les femmes du maritime pourraient être touchés par ce changement de réglementation, celui que vous avez nommé?
Alors, bien sûr, il faut en être conscient, tout d'abord. Il faut être au courant de ce qui se passe parce qu'actuellement, si on gère une infrastructure mondiale, de classe mondiale, comme par exemple le hub portuaire Tangemed, si on est impliqué dans la gestion d'un hub qui fait partie d'une chaîne mondiale de valeur, il faut être conscient de ce qui se passe. Donc ça, c'est déjà de un. De deux, Et ça, c'est lié au troisième choc que j'ai voulu rajouter en plus du choc digital et réglementaire. Il y a le choc géopolitique. Actuellement, les profils qui sont demandés pour cette nouvelle génération de développement, c'est des profils qui savent vendre l'infrastructure à l'international. Si on travaille au Maroc, cela ne veut pas dire que la logistique et le sujet s'arrêtent aux frontières marocaines. Mm. On devient un maillon qui est lié à la chaîne de valeur internationale. On est impacté par ce qui se passe à Shanghai, on est impacté par ce qui se passe au port de Jebel Ali, et voilà, donc il faut vraiment avoir une approche globale.
Mmh. Alors, justement, si on devait se concentrer sur une compétence majeure aujourd'hui que vous voyez émerger à l'international et qui n'est pas encore présente au Maroc, parce que lorsqu'on parle de maritime, c'est un secteur tellement large en fait. C'est les ports, c'est les bateaux, c'est la navigation, c'est énormément d'éléments. Quand on parle justement de changement, de mutation du milieu professionnel, pour vous, quel est l'élément le plus, on va dire, crucial à observer, à anticiper, sur lequel il faut absolument aujourd'hui que notre écosystème du maritime marocain travaille?
Bon, ça dépend de quel côté on est positionné. Par exemple, si on parle du côté gestion des flottes maritimes, une compétence cruciale, c'est de savoir traiter la future génération des navires qui vont fonctionner à l'ammoniac, à l'hydrogène. Et avec cela se posent des contraintes sécuritaires énormément. Vous savez que, par exemple, selon les chiffres d'Allianz, qui est un assureur majeur dans le secteur maritime, jusqu'à 85% des sinistres maritimes sont causés par des fautes humaines. Donc, si aujourd'hui on traite un navire qui fonctionne au carburant fossile, demain on se trouve avec un navire qui est propulsé par l'énergie nucléaire. Vous savez combien ça va coûter une faute ou un accident de telle sorte de navire. Donc voilà, donc si on parle de gestion des flottes maritimes, ça sera surtout savoir gérer et se comporter avec des navires qui vont fonctionner avec des énergies alternatives et renouvelables, ce qui est le cas et ce qui va s'accélérer dans les futures années, surtout qu'on a l'agenda du net zéro de l'IMO, de l'Organisation Maritime Internationale.
Alors justement, par rapport à ce point en particulier, est-ce qu'il y a un deadline de changement de carburant?
Ah, c'est une très très bonne question. Alors, à valeur d'aujourd'hui, on est dans un mode de wait and see. Je sais ce que je suis en train de dire peut sembler un peu en déconfort, mais c'est le cas. Actuellement, si on prend les rapports annuels des grands fabricants d'engins de réacteurs de navires, ils sont tous en train d'encourager une approche de flexibilité et d'agilité. Donc, il n'y a pas une réponse claire à l'échelle internationale par rapport à l'alternative du fuel fossile, ce qu'on dit actuellement dans notre langage le bunker. Donc, il y a des moyens intermédiaires, comme le LNG, le gaz liquéfié, qui est utilisé actuellement. Il y a des compagnies qui sont quand même poussées au niveau des flottes et des navires qui opèrent à l'ammoniac, méthanol, l'hydrogène. Voilà, on est en train d'essayer de tenter. Mais il n'y a pas actuellement un consensus global sur l'alternative des moyens existants. Et cela, d'ailleurs, c'est une très grande opportunité au Maroc. Et là, je rajoute la compétence de la formation. Parce qu'on voit que le Maroc veut devenir un hub producteur de l'hydrogène vert. Les statistiques, officiellement parlant, on parle de 800 000 marins au niveau mondial qui doivent être formés pour opérer ces nouvelles générations de navires. Donc, pourquoi pas le Maroc peut capitaliser sur ça, non seulement produire de l'énergie, mais établir un standard aussi de formation pour le monde maritime.
Alors là où certains voient des challenges, vous voyez des opportunités, Jihad Bied?
Mais bien sûr, écoutez Yasmine, soit on va parler pessimisme, on ne va rien faire.
Soit on parle business opportunity.
Exactement, ouais. C'est la réalité des choses. Et d'ailleurs, c'est une compétence aussi qu'on doit inculquer aux professionnels logistiques, c'est qu'actuellement, on vit au Maroc, on opère, mais on est touché, on est impacté par ce qui se passe dans le monde. C'est un web de connexion. Et donc, il faut savoir interpréter les défis et les transformer en opportunités. Je cite ici un petit exemple. Lors de mon expérience, quand je suis passé par Singapour, j'ai vu des équipes qui ont pu transformer des flux aériens qui passaient entre la Nouvelle-Zélande et l'Inde. Ils les ont transformés à des flux air-mer via Singapour. Donc, ils ont pu valoriser leur infrastructure pour attirer des flux qui ne passaient pas par leur pays. Et donc, ils ont pu, on peut dire, vendre leur infrastructure à l'échelle régionale au niveau de l'Asie sud-est. Donc, il ne s'agit pas uniquement de dire « bah c'est pas possible, il y a des problèmes, il y a un manque de capacité, manque d'équipement ». Non, il faut trouver des alternatives, et il y en a.
Mais il faut trouver des alternatives, mais concrètement, qu'est-ce que ça change de manipuler un navire? Je ne sais pas si c'est le bon terme, parce qu'on ne dit pas conduire un navire, j'imagine.
Piloter,
voilà. C'est le bon terme, ouais. Voilà, j'entends souvent exactement. Ça autour de moi, piloter un navire. Qu'est-ce que ça change concrètement de piloter un navire aujourd'hui avec l'énergie qu'il utilise versus les nouvelles énergies à venir? Est-ce qu'on sait déjà ce qui change?
Ça change tout le paradigme, Yasmine. Premièrement, il y a l'aspect financier. Parce qu'un navire qui opère avec ses énergies ne coûte pas la même chose que l'ancienne génération des navires. Mmh. Il y a déjà des différences de valeur énormes. Avec cela viennent la contrainte des assurances. Vous savez par exemple qu'actuellement, au niveau du secteur des assurances, il n'y a pas aussi une certitude par rapport à comment couvrir un navire propulsé par le nucléaire, par exemple. Mmh. Donc il y a toujours des réticences. Donc le secteur des assurances est toujours réticent, il n'y a pas une approche cohérente au niveau mondial. Donc il y a le facteur des assurances. Puis il y a le facteur de l'équipage. Donc comme je viens de citer il y a quelques minutes, il y a un gap énorme entre les compétences existantes des marins et ce qui va être requis pour opérer cette nouvelle génération des navires. Mmh. Il y a l'aspect approvisionnement. Aussi, donc au niveau mondial, la carte de l'approvisionnement, puisqu'on ne s'est pas encore mis d'accord sur l'alternative.
Oui.
Comment vous voulez qu'une entité comme Shell, par exemple, va investir sur des infrastructures d'approvisionnement qui vont coûter des sommes énormes? Donc, même aussi la carte de l'approvisionnement, elle est impactée. Donc, il faut voir les choses sur une chaîne et il y a un effet domino. Mm.
Mais alors justement, comment forme-t-on des marins lorsqu'on ne sait pas encore quelle technologie deviendra dominante?
Actuellement, c'est une course d'innovation. Mm. Donc actuellement, celui qui arrivera à faire vendre un modèle crédible et prévisible, il va imposer sa version. Et donc, je pense qu'au niveau de notre pays, il y a vraiment une opportunité majeure parce qu'on est déjà en train d'intensifier nos investissements pour attirer les investisseurs et développer la thématique de l'hydrogène vert. Je pense que, voilà, si on capitalise énormément également sur le développement du volet formation, on pourra devenir aussi un hub pour la formation du secteur maritime.
Mmh. Mais alors, la transformation ne concerne pas seulement ce qu'on apprend, mais aussi la manière dont on apprend. Vous évoquez notamment l'utilisation de réalité virtuelle.
Bien sûr. C'est une technologie qui transforme catégoriquement la formation dans le domaine. Par exemple, dans le passé, pour former un équipage, on devait organiser ce qu'on appelle dans le jargon maritime le phase-out. Donc, on doit les faire venir à terre, les remplacer, trouver le remplacement. Et ça aussi, ça implique aussi sur la synergie des équipes et leur efficacité à bord. Maintenant, avec la réalité virtuelle, l'équipage, il peut déjà assister à une formation alors que le navire, il est sous opération au port. Mm. Donc, ça coupe énormément le coût de la formation. Aujourd'hui, un formateur basé, par exemple, dans l'avenir, Inch'Allah, on l'espère bien, au Maroc
oui.
il peut organiser des cours de formation avec la réalité virtuelle pour un équipage qui est situé ailleurs, dans une autre géographie. Mm. Donc voilà, donc c'est en train de métamorphoser la thématique de la formation.
Alors justement, que devient l'expérience dans tout cela? Un professionnel qui a 20 ans de métier garde évidemment une expertise qui est considérable, mais doit-il aussi accepter parfois de réapprendre son propre métier? Est-ce que ce n'est pas la génération la plus compliquée aussi à gérer?
Bien évidemment, il s'agit aussi je ne vais pas dire des obstacles, parce que on ne peut pas mettre en question la capacité de cette génération. Si aujourd'hui le port de Tangemed est classé top 1 en Afrique, en Méditerranée, classé top 6 mondial en termes de performance, on ne peut pas mettre en question le savoir-faire de cette génération qui a pu démontrer ce positionnement. Mais comme dans tous les secteurs, puisqu'on est exposé à des chocs qui nous dépassent, il faudra absolument actualiser les connaissances. Je vous donne un simple exemple. Est-ce que votre téléphone portable est le même qu'il y a 3 ans? Ce n'est pas le même. Vous actualisez votre software pour que votre portable puisse être à jour. C'est la même chose. On ne peut pas travailler dans un domaine et bétonner, voilà, fermer, mettre des murailles et dire... je suis valable pour d'ici 20 ans, 30 ans. Je ne pense pas que c'est durable.
Ce n'est pas durable aujourd'hui. Ça l'était il y a 20 ans, justement. C'est aussi un changement de mindset qui s'opère aussi. Parce que quand on parle des compétences de demain, on parle de la formation des jeunes. Mais on parle aussi de l'adaptation, de l'agilité des seniors.
Bien sûr, parce que l'industrie maritime elle-même, il y a 20 ans, on n'était pas exposé au même choc qu'aujourd'hui. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de crise énergétique. Il y a 20 ans, on ne parlait pas, par exemple, des risques de cyberattaque, comme on est en train de voir actuellement. Il n'y avait pas aussi des problèmes sectoriels, comme la consolidation, par exemple. Il y a 20 ans, on ne parlait pas consolidation. Donc, il y a des thématiques qui s'imposent actuellement comme des contraintes majeures. Et pour pouvoir continuer à opérer efficacement, il va falloir mettre à niveau le niveau des compétences.
Absolument. Donc, vous l'avez dit il y a quelques instants, le pays a investi dans ses infrastructures portuaires, sa connectivité, son positionnement logistique. Est-ce que le prochain avantage compétitif du Maroc dans le maritime se jouera autant dans ses écoles et ses centres de formation que dans ses ports, Jihad Bied?
Absolument, absolument. La clé pour qu'on puisse soi-disant implémenter la vision de notre pays, qui est d'ailleurs la vision de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, c'est de penser autour d'un cluster. On ne peut pas faire avancer le Maroc vers la vision d'une nation maritime sans mettre en place toutes les parties du puzzle. Pour qu'on puisse devenir une nation maritime, il n'y a pas que les ports d'ailleurs. Les ports, c'est un maillon important, essentiel, mais en plus de cela, si on veut devenir une nation maritime, il faut qu'on assure la question de l'approvisionnement énergétique, le volet des chantiers navals, le volet des gestions des flottes, l'approvisionnement de la main-d'œuvre telle que les marins, le côté financement, ce qu'on appelle ship finance et assurance, le côté de classification. Donc, le secteur maritime dans sa chaîne de valeur, il est vraiment varié. Et bien sûr, pour qu'on puisse atteindre ce niveau-là, il va falloir mettre en place un écosystème composé des opérateurs privés, des acteurs publics également, des universités. Parce que le sujet ne touche pas un opérateur d'une manière individuelle. Ça touche tout le secteur. Et si on laisse ce sujet-là en mode freestyle, on va finir par avoir un secteur fragmenté. On va finir par avoir un secteur où il y a une ressource humaine qui travaille chez les multinationales hautement formées, qualifiées, et en parallèle, ceux qui travaillent par exemple chez les TPME ou les PME n'ont pas forcément les mêmes moyens.
Donc la vraie bataille de compétitivité de demain, c'est finalement une bataille de talents.
De talents et aussi de synchronisation de talents.
Oui. D'alignement, absolument. Alors, si un jeune Marocain, une jeune Marocaine nous écoute aujourd'hui, se dit « je veux travailler dans le maritime dans 10 ans », que lui conseillez-vous on va dire dans 5 ans, pourquoi 10 ans, dans 5 ans, quels métiers vont prendre de l'importance? Quelles compétences techniques? Quelles compétences digitales? Tous ces éléments-là, Jihad Bied.
Je dirais qu'il faut, pour tous les jeunes, il faut absolument démarrer par de l'expérience concrète. C'est une phase essentielle. Et puis, il faut vraiment se concentrer sur le mindset. Moi, je dirais que le mindset joue le rôle le plus important pour leur développement de carrière. Il faut rester agile, il faut essayer d'apprendre le maximum, il faut rester actualisé. Actuellement, à travers l'Internet, on a accès à des milliers de pièces d'informations. D'ailleurs, l'Organisation Maritime Internationale met à disposition du grand public beaucoup de matériel à titre gracieux. Voilà. Donc, on peut lire les rapports, les études scientifiques, et voilà, vraiment s'équiper avec du bagage intellectuel. Et à force de la persistance, de la consistance de l'effort, je suis persuadé que nos jeunes talents ils trouveront un terrain d'épanouissement dans leur carrière.
Aujourd'hui, étant donné que le secteur est en mutation, les compétences nécessaires à ce secteur aussi, mais il n'y a pas encore d'alignement sur ces compétences, il n'y a pas encore d'alignement sur, on va dire, la nouvelle feuille de route de ce secteur-là. Si on reste par exemple sur les marins, on reste sur les marins. Ceux qui démarrent des études aujourd'hui en septembre 2026, est-ce que, à l'issue de leur formation, est-ce que ces années et ce temps passé à se former à partir de septembre 2026 en vaut la peine?
Bien sûr, la formation, elle est essentielle, mais il ne va pas dicter le parcours professionnel par la suite. Si, bien sûr, je comprends très bien, à valeur d'aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a pas une offre de formation aussi variée qu'on en souhaite, mais déjà le fait d'acquérir, par exemple, une formation en commerce international ou bien dans n'importe quel autre domaine, et puis intégrer le marché professionnel le plus tôt possible pour acquérir de l'expérience sur terrain. Ça, c'est très important. L'expérience sur terrain, couplée avec la bonne attitude, la bonne mindset, et aussi à un niveau linguistique, surtout en anglais, ce trio-là, je suis persuadé que ça ouvre les portes des opportunités.
Alors, quand vous dites le bon mindset, c'est l'agilité, si je comprends bien.
Exactement, l'agilité est de considérer que ce qui se passe autour du monde est en relation avec la chaîne logistique marocaine également.
Absolument, exactement. Absolument. Donc, peut-être pour finir, Jihad Bied, si demain on vous donnait carte blanche pour préparer le capital humain maritime marocain aux 10 prochaines années, quelles seraient vos 3 priorités?
La première priorité, c'est de faire un profiling futuriste de ce que sera le capital humain idéal, compétitif pour cette nouvelle phase. Déjà, il faut savoir ce qu'on cherche. Donc, il faut faire ce profiling. Il faut faire des benchmarks, il faut se comparer avec ceux qui nous devancent, et voilà, donc mettre ce benchmark sur place. Et puis, faire une comparaison, une nuance avec l'existant au Maroc, les points forts, les faiblesses, là on doit mettre plus d'accent, et essayer avec le temps mettre en place une feuille de route concrète, avec des milestones concrets, pour soi-disant éliminer les gaps petit à petit jusqu'à ce qu'on puisse demain avoir le capital humain qui saura vraiment être compétitif à l'échelle mondiale.
Le Maroc, Jihad Bied, a beaucoup investi dans ses infrastructures, ses ports et sa connectivité avec le monde, mais une infrastructure aussi moderne soit-elle ne créée de valeur que si des femmes et des hommes savent la faire fonctionner, la sécuriser et la faire évoluer dans un monde où les technologies avancent toujours plus vite. Le prochain avantage compétitif du Maroc pourrait bien se jouer là, dans sa capacité à préparer les compétences avant même d'en avoir besoin. Merci beaucoup Jihad Bied pour cet échange.
Avec plaisir, Yasmine.
Vous écoutiez Nouvelle Piste, le rendez-vous qui explore les grandes mutations du monde professionnel.